Sartre lit Simone de Beauvoir ou...
Bah écoute, je crois que tout à l'heure, enfin, on a changé d'exposition là. Ouais. On s'était quitté sur l'idée de l'art. Est-ce que l'art est amical en fait?
Est-ce que l'art est amical?
Ouais. Enfin, non. Est-ce que l'art est amical? On était sur l'idée de l'amitié.
Ouais.
Et on parlait. Et je te demandais en fait si l'art biotechnologique, tel qu'on le voit là aujourd'hui, ce soir ou hier même, pouvait développer des formes d'amitié ou enfin oui, si l'art est amical, je sais pas comment le formuler, mais je crois que c'est comme ça que je l'avais dit.
On peut considérer que
ou l'art doit être amical ou favoriser des rapports d'amitié peut-être.
Non, je serais pas du tout dans le normatif. Je dirais qu'il peut y avoir des proximités entre certains artistes et leurs œuvres. Mmh. Qui peuvent être considérées comme amicales dès lors qu'on est prêt à considérer sans préjugé excessif la relation qui existe entre l'œuvre d'art et l'artiste. Maintenant, tous les artistes n'ont pas des relations amicales avec leurs œuvres. Ouais. Toutes les œuvres ne sont pas dans un rapport amical, mais certaines œuvres peuvent être dans un rapport amical. Par exemple, tu sais que Picasso avait beaucoup de difficultés à se séparer d'une de ses œuvres. Donc je ne dirais pas qu'il a un rapport amical, mais il avait des rapports de proximité avec ses œuvres, mm-hmm. qui, dans certains cas, peut-être, je ne connais pas suffisamment l'histoire de Picasso, mm-hmm. pouvaient déboucher sur un type de relation qui pourrait être considérée peut-être comme pouvant relever de l'amitié, mmh. au sens où je l'entends, c'est-à-dire en termes de proximité et de vie partagée ou d'existence partagée. C'est vrai avec n'importe quel artefact, hein, c'est pas uniquement l'art.
Ouais. Et j'ai fait plein de podcasts et ce thème est revenu. Enfin, c'est un thème qui revient sans cesse depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, j'y reviens à chaque fois. Mais l'idée de la sélection naturelle, mm-hmm. Dans l'idée de l'évolution implique dans cette histoire de compétition et peut-être aussi des rapports d'inimitié entre les espèces.
Oui, sauf que il y a des modèles alternatifs qui insistent autant sur la coopération que sur la sélection et le conflit des uns avec les autres. Et puis on n'est plus dans des rapports non plus complètement naturels aujourd'hui. On a par les technologies, par les institutions, par les relations sociales, on introduit des paramètres nouveaux, disons, pour être un peu soft, des paramètres nouveaux dans le processus évolutionniste, mm-hmm. qui fait que même s'il y a toujours compétition, même s'il y a toujours sélection, on n'est pas forcément dans des cas simples comme ceux qui sont décrits par Darwin, par les post-darwiniens.
Et dans le non-humain, est-ce que tu t'intéresses, quand tu parlais du non-humain tout à l'heure, hier, mmh. c'était strictement au niveau des êtres, des organismes vivants très développés, évolués, ou alors c'était aussi...
Donc pour moi, le non-humain, c'est tout être vivant qui n'est pas humain et qui représente un ensemble ouvert. Donc c'est un ensemble ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui ou n'importe quoi peut être inclus dans cet ensemble,
ouais.
À partir du moment où on décide pas de l'en exclure de façon explicite. Moi, j'ai une perspective qui est constructiviste sur le vivant, c'est-à-dire que est vivant une créature qu'un être déjà vivant va considérer comme vivante. C'est-à-dire que je n'ai pas une définition a priori de ce que doit être un être vivant. Donc je dirais pas un être vivant.
Ça repose sur l'animé, l'inanimé.
Pas du tout. Non, ça dépend. Ça repose sur la vie partagée, c'est-à-dire ce avec qui ou quoi je peux partager ma vie est vivant, ou ce avec qui ou quoi un organisme vivant peut partager son existence est vivant. Ce qui est une façon très inhabituelle de considérer, d'approcher la question du vivant. Et du coup. Les êtres non humains, les êtres vivants non humains, c'est les animaux, les végétaux, les champignons, mais aussi certains artefacts, pas forcément des robots hyper perfectionnés, ça peut être des fétiches, ça peut être Ça peut être des ours en peluche, ça peut être des tas de créatures comme ça, au statut indéterminé. À mon avis, l'histoire de la technologie ne s'intéresse pas assez à l'histoire de ces artefacts-là. J'appelle des artefacts générateurs de sens. Mmh. Et c'est aussi des montagnes, des paysages, des planètes, des océans. Ça peut être aussi des fantômes, des esprits, des démons. C'est pas limitatif. Je ne ferme jamais a priori la liste. Parce que pour moi, un être vivant ne fait pas partie d'une liste. Un être vivant fait partie d'un processus. C'est-à-dire que tu n'es pas un être vivant, tu es un processus en vivant. Le français ne va pas du tout. J'ai des problèmes avec la grammaire française. Je pense que le français ne permet pas d'exprimer ce qui fait qu'un être vivant devient vivant. Alors, je ne réduis pas du tout les êtres vivants à des organismes biologiques. Ouais. Et je pense que les biologistes n'ont aucune raison de revendiquer un monopole sur le vivant.
Ça voudrait dire que ça ouvre tout le champ de l'art vivant, l'art vivant ou l'art du vivant, à des œuvres, à des formes artistiques de l'ère pré-technologique.
Ce qu'on appelle l'art vivant, c'est plutôt le théâtre, la scénographie,
oui, oui,
etc.
Bon, là, je
ce que je pense, c'est que les artistes ont un rôle à jouer, parce que les artistes peuvent être considérés comme ceux qui peuvent tenter des expériences particulières dans l'espace du vivant. C'est-à-dire qu'ils peuvent essayer de se vivre vivant. Le français me gêne beaucoup. Hein. avec des entités avec lesquelles que d'habitude on ne considère pas comme vivantes. Et que je pense que des stratégies intéressantes artistiques aujourd'hui pourraient être d'essayer d'élargir au maximum la sphère des êtres qu'on peut considérer comme vivants.
Et quel autre mot tu préférerais que vivant, ou tu aurais une autre proposition?
Non, être vivant, ça ne me gêne pas.
Être vivant,
ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est... ça ne me gêne pas, mais... pour moi, un être vivant, ce n'est pas un être qui a des caractéristiques que tu peux décrire en termes causaux, de causalité nécessaire et suffisante. C'est un processus.
Donc,
qui est un processus relationnel et situé.
Est-ce que tu t'inscris en faux quand l'ONDI détermine les critères du vivant, comme par exemple l'autopoïèse, l'autodétermination, l'auto-organisation?
Tout à fait. Pour moi, ces critères sont plus ou moins intéressants,
ouais.
Mais c'est des critères parmi d'autres. Il n'y a aucune raison de considérer que ce critère-là est plus intéressant qu'un autre.
C'est peut-être parce que à partir de ce critère-là, on voit se manifester des choses qui n'apparaissent pas dans d'autres formes de vie ou d'autres états de la matière, non ?
Alors, ça me permet de faire une transition en disant que dans la perspective que j'essaie de développer, toutes ces approches sont incluses. C'est-à-dire que quand on biologiste dit un être vivant, c'est uniquement un être carboné qui a des capacités de reproduction, d'autonomie, etc., c'est un sous-ensemble de ce que j'entends par le vivant. Ça, c'est pas du tout contradictoire.
Ouais.
Tu as une population qui est celle des biologistes qui vont considérer comme vivant les créatures qui ont ce type de caractéristiques. Ce que je reproche aux biologistes, c'est pas d'avoir cette vision, c'est de considérer que cette vision est universelle et limitative. C'est-à-dire que tout ce qui est vivant rentre dans ce cadre, alors que pour moi, pas du tout.
D'accord. Et ton regard en particulier, juste pour conclure, sur tout ce qu'on a vu ces trois derniers jours, les propositions des artistes, néo-life et tout ça, qu'est-ce que tu penses de ce mot d'ailleurs, néo-life?
Ce que je pense de ce qui s'est passé pendant ces trois jours, c'est double. C'est à la fois très intéressant et ça pourrait être encore plus aventureux.
C'est pas aller assez loin?
Non, je pense que c'est pas aller assez loin. C'est-à-dire que les artistes restent, malgré tous les efforts qu'ils essaient de faire, malgré tout, les artistes restent fondamentalement contaminés par des modèles biologistes qui n'ont aucune raison d'avoir la prédominance qu'ils ont.
Il y a des modèles alternatifs?
Alors, tu as des modèles qui ont été développés, par exemple, en informatique, qui sont développés en robotique. Est-ce qu'un robot est vivant ou non?
À partir du silicium, te paraît aller beaucoup plus loin que ce qu'on voit à partir de la biologie de synthèse et...
Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que ceux-là vont plus loin. Ce que je dis, c'est que les artistes peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'ils font, me semble-t-il, parce qu'ils restent très liés à des représentations très biologiques du vivant ou très, très informatiques. Mais par exemple, tu as très peu d'artistes qui sont prêts à inclure dans leurs travaux une dimension spirituelle avec des fantômes, avec des esprits, avec des démons, etc. Ou alors de façon métaphorique. Et je pense que la créativité artistique peut être infiniment supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Okay. Qui a des blocages, qui sont des blocages culturels, qui pourraient être fermés.
Okay. Bah écoute, merci beaucoup, je suis ravi d'avoir fait ce podcast avec toi, parce que l'année dernière j'ai fait un podcast avec Thierry Bardini et il m'avait dit qu'il fallait que je te rencontre.
Bah c'était très bien que tu aies rencontré Thierry Bardini. Non, on s'entend bien tous les deux.
Ok, bah merci bien.
Ok.